Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Cela faisait 5 ans que le comité consultatif de coopération et de sécurité ne s'était pas réuni, rassemblant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense française et russe, mis sur pied dans les années 90 pour renforcer les liens, y compris sur le plan militaire avec la Russie. La structure avait été gelée au printemps 2014 après l'annexion de la Crimée, la première par la force d'un territoire en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-on parler de reset? Regard en tout cas sur le calendrier de cette ouverture. Des relations à l'évidence nécessaires afin de peser sur des dossiers comme la Syrie, la République centrafricaine ou encore le nucléaire iranien, ainsi que pour réamorcer des négociations sur le contrôle des armements en Europe. Préoccupation majeure de Paris. La prise de distance du président américain à l'égard des affaires européennes n'est pas non plus étrangère à la main tendue de Paris dans une volonté de ne pas laisser l'Europe être isolée. Le rapprochement crée de l'agacement. Peut-il pour autant être jugé négativement? Regard sur la volonté française d'intensifier le dialogue avec la Russie, avec nos invités par téléphone. Arnaud Dubien, politologue, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou et chercheur associé à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Tatiana Kastuevajan, directrice du Centre Russie de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Quels arguments plaident, selon vous, pour un dialogue avec la Russie de Poutine? Est-ce qu'on peut parler de rapprochement ou simplement de dialogue? Qu'attendre de ce rapprochement ou de ce dialogue? Est-ce que les conditions vous semblent réunies, Arnaud Dubien?
En tout cas, c'est sans doute prématuré d'évoquer un rapprochement. Il y a une volonté de dialogue certaine avec certains objectifs ambitieux. À l'évidence, il y a un certain nombre de dossiers, vous en avez parlé, à commencer par l'Ukraine, sur lesquels il est inenvisageable d'avancer sans dialoguer avec la Russie. Donc évidemment, il n'y a aucune garantie de résultat. Mais on sera fixé assez rapidement, je pense, d'ici quelques semaines, si les choses avancent, et en particulier sur l'Ukraine, qui est la clé pour avancer sur d'autres dossiers.
On va bien sûr parler beaucoup de l'Ukraine. Tatiana Kastuevajan.
Rapprochement, c'est avant tout les actes pour moi. C'est quand en 2003, la France, l'Allemagne et la Russie s'opposent à l'intervention américaine en Irak, c'est un signe très fort du rapprochement. Ou sous Nicolas Sarkozy, quand on décide de vendre des Mistral, des porte-hélicoptères à la Russie, c'est un signe de rapprochement très fort. Pour l'instant, il s'agit des ouvertures au dialogue, de la volonté de reprendre les relations après cette période extrêmement difficile de 2014, et ceci sont donnés avant tout par la partie française.
Bruno Tertrais.
Le dialogue, il n'a jamais cessé. Les gens qui nous disent depuis la Crimée, depuis 2014, qu'on ne parle pas à la Russie, ne connaissent pas la réalité diplomatique. La France a consenti un énorme investissement sur ce qu'on appelle le format Normandie, ces réunions à quatre, France, Allemagne, Ukraine, Russie, qui a été justement créée en 2015. Donc on parle énormément à la Russie, mais peut-être effectivement qu'on ne parle pas assez. En tout cas, s'il s'agit de multiplier les canaux de dialogue dès lors que après la Crimée, justement, beaucoup de canaux ont été coupés, pourquoi pas? Je veux dire, on n'a rien à perdre à parler davantage. Et c'est vrai que la réunion que vous mentionnez, ce fameux comité consultatif, ça s'appelle du 2 plus 2 en langage diplomatique, affaires étrangères, défense de chaque côté. C'est vrai que la France est venue là vraiment en force. C'est assez rare que se déplace... Alors, il se trouve que j'étais à l'aéroport au même moment que la délégation française, mais c'est un hasard. J'ai vu la composition de la délégation. Il y avait non seulement les ministres et leurs directeurs de cabinet, ce qui est assez rare, mais aussi tous les directeurs. Voilà, il y avait quand même... la France a vraiment voulu marquer avec cette réunion qu'elle souhaitait donner toutes les chances à un dialogue constructif avec la Russie. On verra, pourquoi pas. Je fais partie des sceptiques, mais en tout cas, je crois qu'on ne perd pas grand-chose à essayer, sauf, et nous allons probablement en reparler, à ce que nos partenaires européens, en tout cas certains d'entre eux, voient ça de manière assez sceptique. Et je dirais qu'on n'a peut-être pas assez bien préparé cette relance subite du dialogue approfondi avec Moscou, avec nos partenaires européens, à mon sens, qui va poser quelques problèmes, à mon avis, à Emmanuel Macron.
Alors, partenaires européens, commencer par Berlin, on y reviendra, et puis le président finlandais, dans un article au quotidien Le Monde, daté de jeudi, se dit favorable à ce dialogue avec Vladimir Poutine. Tatiana Kastuevajan, je voudrais juste revenir sur ce que vous évoquiez à la toute fin de votre première intervention. C'est la partie partie française qui rouvre ce dialogue. Est-ce qu'il faut s'en étonner? Quelles en sont les raisons? Pourquoi le président français davantage que quelqu'un d'autre en Europe?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ce que ces signes d'ouverture soient montrés depuis le début de l'été. Évidemment, il y a la présidence française au Conseil de l'Europe, auquel je pense, et la Russie, grâce au soutien français, la délégation russe a réintégré l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il y avait aussi la présidence française du groupe de G7, dont Emmanuel Macron voulait faire un succès. Il a aussi, il y a des raisons de court terme, il a aussi besoin de la Russie pour jouer correctement son rôle de médiateur, le rôle dans lequel il essaie de s'affirmer entre l'Iran et les États-Unis. En fait, la Russie est importante pour les questions européennes en soi, mais aussi en tant que clé pour ouvrir d'autres dossiers. Et puis, il y a aussi un autre facteur, c'est l'élection du nouveau président ukrainien. Vladimir Zelensky, qui a aujourd'hui la plénitude du pouvoir en Ukraine, le fait suffisamment rare où la Rada, le Parlement ukrainien et le président vont pouvoir parler de même voix. Donc, il peut y avoir moins de blocage sur le plan intérieur pour Vladimir Zelensky. Donc, la conjoncture, en fait, cet alignement des facteurs semble favorable pour formuler de nouvelles propositions à l'égard de la Russie.
Alors, l'Ukraine, justement, je me tourne vers vous, Arnaud Dubien. Le dialogue ou la réouverture avec Moscou, tout le monde est d'accord pour dire que elle passe d'abord par l'application des accords de Minsk. J'aimerais qu'on y revienne. Des accords qui ont été signés en 2015 et qui sont restés pour l'essentiel lettre morte. Bruno Tartrel l'évoquait, prochain sommet possiblement entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie fin septembre à Paris. Comment voyez-vous la situation avec l'Ukraine, Arnaud Dubien ?
La situation est évidemment compliquée. Les choses sont allées très loin. Il y a eu une belligérance de fait, même si évidemment elle n'a jamais été assumée. Plus de 10 000 morts dans le Donbass, l'annexion de la Crimée quelques mois avant, en mars 2014. Il y a d'autres dossiers qui peuvent parasiter ce processus de discussion sur le Donbass. Je pense au dossier gazier, avec des contentieux extrêmement lourds entre Gazprom et Naftogaz. Donc les choses ne sont pas faciles. Et on s'en est rendu compte hier à Minsk, lors de discussions tripartite. Ceci dit, il y a eu un échange de prisonniers qui crée un fond plus favorable, je dirais, pour la reprise des discussions sur le fond. Donc, il y a un alignement des astres potentiellement plus positif, une attitude de l'administration ukrainienne à l'évidence plus ouverte que la précédente. Je rappelle que la précédente était dans une logique de rupture totale à l'égard de la Russie, une rupture politique, économique, mais également humaine, linguistique, religieuse. Cette politique a été rejetée massivement par les Ukrainiens, ce qui n'en fait pas pour autant des partisans d'une normalisation à tout prix avec la Russie. Mais il y a un espace, s'il y a une fenêtre d'opportunité, mais rien ne s'assimple dans les semaines qui viennent.
Alors, fenêtre d'opportunité, Bruno Tertrais, comment voyez-vous les dispositions de la Russie aujourd'hui vis-à-vis de ce qu'on évoque, la question ukrainienne?
Moi, il me semble qu'il faut quand même... Il faut quand même séparer les choses. Quand on parle de l'Ukraine, Arnaud Dubien l'a dit à l'instant, il y a la question de la Crimée, il y a la question du Donbass et il y a d'autres sujets derrière. La Crimée, c'est pas simplement le Donbass, c'est pas simplement le gaz, c'est tout ça en même temps. La Crimée, évidemment, ne fera pas partie du menu. Même si les Occidentaux ne l'acceptent pas.
Elle passe par pertes et profits, la Crimée, aujourd'hui, Bruno Tertrais?
Non, je ne pense pas qu'elle passe par pertes et profits. Justement, je pense que la question de la Crimée restera un coin enfoncé dans la relation entre l'Europe, les États-Unis, l'Ukraine, d'une part, et la Russie. Elle ne passera pas par perte de profit, mais c'est la limite de ce qui est dans l'espace du discutable, du négociable. Ce qui est sur le plan strictement territorial et constitutionnel en Ukraine, ce qui est en discussion, c'est le statut du Donbass. Ce que Moscou peut envisager de discuter, de négocier, c'est effectivement la manière dont ses intérêts seront ou pas pris en compte sur le Donbass. Je crois qu'il faut bien séparer les choses. La Crimée ne sera pas passée par pertes et profits, en tout cas certainement pas par les Européens et probablement pas par les Américains et encore moins par les Ukrainiens. Donc la possibilité d'une levée totale des sanctions qui ont été imposées après l'annexion de la Crimée ne se pose pas non plus. La question, c'est plutôt quel est l'espace de discussion sur le Donbass et dans quelle mesure la Russie aujourd'hui est prête à accepter d'autres types de compromis que ceux qui ont été fixés par les accords de Minsk, même si, encore une fois, aujourd'hui, le cadre de négociation accepté par tous reste les accords de Minsk 2.
Alors, Tatiana Kassovajan, je me tourne vers vous en reprenant la question de Bruno Tertrais. Quel est l'espace de discussion aujourd'hui sur le Donbass ?
D'une part, je suis d'accord qu'il faut séparer la question de la Crimée, même si elle ne sera pas oubliée, elle ne fera pas obstacle dans la reprise du dialogue, etc. Je compare cette situation souvent à l'annexion des pays baltes
en 1945,
qui pendant l'époque soviétique, en fait, cette annexion n'a jamais été reconnue, mais ça n'a pas empêché toutes les discussions qui ont eu lieu entre l'Europe et la Russie, l'URSS à l'époque, ou l'Occident et l'URSS. Donc c'est un peu le même cas de figure pour moi qui va se présenter. Et il faut aussi, à mon avis, comprendre plusieurs choses. D'une part, la position de Vladimir Zelensky, qui est pas facile parce qu'il subit beaucoup de pression.
Le président ukrainien,
d'une part par son opinion publique qui souhaite la paix, ça apparaît comme première priorité dans les sondages pour la population, sans qu'on sache vraiment quelles sont les concessions, à quel prix cette opinion publique est prête à accepter la paix. Est-elle vraiment prête pour le statut particulier de Donbass transcrit dans la constitution ukrainienne? Ça, je n'en suis pas du tout convaincue. Il subit aussi les pressions de ses partenaires européens, de la Russie. Il a fait des déclarations en disant que l'Ukraine était prête pour faire des compromis difficiles, lourds. Il parle des accords de Minsk. Juste avant son élection, il voulait inviter aussi les États-Unis et la Grande-Bretagne pour participer à ce format de Normandie, pour l'élargir. Ce sont les pays signataires du mémorandum de Budapest. A priori, il semble avoir abandonné cette idée. Mais on ne sait pas encore jusqu'où peut aller sa marge de manœuvre. On l'a vu un petit peu à Paris, quand il est venu à Paris lors de la conférence de presse avec Emmanuel Macron. Il s'est permis de couper Emmanuel Macron pour préciser que l'Ukraine n'a pas prévu de discuter directement avec les chefs séparatistes. Donc il faut imaginer la situation où l'Ukraine accepterait d'avoir des députés élus dans cette région qui intégreront la Rada suprême et dont le vote risque d'être téléguidé par la Russie. Donc au fond, le dossier sur lequel on peut avoir des avancées, c'est le dossier sécuritaire autour de Donbass et notamment l'échange de prisonniers. Donc ça, il y a eu déjà le premier échange 35 contre 35, c'est pas encore tous contre tous. Il peut y avoir d'autres évolutions sur le plan sécuritaire, mais c'est le plan politique qui risque à nouveau de bloquer le dossier.
Alors, Arnaud Dubien, je me tourne vers vous. Vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit? Et qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la situation sur la ligne de front? J'aimerais après qu'on parle de l'autre point d'achoppement qui est la situation en mer d'Azov, dont Moscou a pris le contrôle. Arnaud Dubien.
Oui, il faut d'abord rappeler que les accords de Minsk sont globalement favorables à la Russie et aux séparatistes. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent une triple défaite militaire de l'Ukraine en août, septembre et février 2015. Évidemment, le volet politique qui prévoit une autonomie, un statut particulier, en tout cas pour le Donbass, a d'emblée posé problème. Ces accords de Minsk font l'objet de lectures différentes, de tentatives de relecture, mais encore une fois, dans le fond, le volet politique bloque à Minsk. On ne sait pas très bien si Zelensky, de ce point de vue-là, peut faire ou souhaite même faire ce que Poroshenko, son prédécesseur, avait refusé de faire.
Bruno Tertrais, un commentaire. Alors, oui, après ça, je reviendrai sur la mer d'Azov.
Non, simplement pour dire que la question de l'Ukraine est loin d'être le seul chantier ouvert dans cette reprise d'un dialogue approfondi entre la France et la Russie. C'est un dossier parmi d'autres. Et d'ailleurs, les dossiers ouverts ne sont pas seulement ceux des crises. Donc ça, faut pas oublier que la France, quand même, là pour le coup, est assez cohérente dans son approche du dossier ukrainien. Elle considère que c'est vraiment ce qu'on appelle le format Normandie. Encore une fois, France, Allemagne, Ukraine, Russie, qui cadre les choses, et il n'est pas question d'ouvrir un canal séparé de discussion, là pour le coup, sur l'Ukraine avec la Russie. Et je ne pense pas du tout d'ailleurs que, d'après ce que l'on sait de l'agenda et de la manière dont se sont passées les discussions d'il y a une dizaine de jours, que cette question ukrainienne ait été au centre des débats entre Paris et Moscou.
Alors, vous parliez des situations qui sont pas toutes des situations de crise. Alors, moi, j'aimerais bien que vous me les développiez, parce que finalement, en préparant cette émission, j'ai relevé quoi? L'Ukraine, on en a parlé. L'histoire de l'accord avec l'Iran, ça aussi, c'est une situation de crise. Trouver une solution politique pour la Syrie. Stabiliser l'Afrique centrale. Et puis, on y viendra dans la deuxième partie de l'émission, reconstruire la sécurité en Europe. Alors, finalement, quels sont les dossiers faciles entre...
Aucun. Je vais vous dire... Les trois dossiers que vous avez mentionnés ont des statuts extrêmement différents. Sur l'Iran, il y a vraiment une convergence de vues sur le principe. Après, sur les modalités de ce que la Russie peut faire par rapport à ce que l'Europe essaye de faire, bon, on peut avoir des débats. Mais en tout cas, sur l'Iran, il y a une convergence de vues sur les principes à peu près totale. Mmh. Je dis bien sur les principes, entre Paris et Moscou. Sur la Syrie, on a l'apparence d'une convergence de vues, puisque ça fait quand même 5 ans qu'on discute de manière très approfondie, nous Français avec les Russes, en bilatéral ou dans des formats multilatéraux. Ça fait 5 ans que les Russes nous disent on veut une solution politique. Nous ne sommes pas mariés à la personne de Bachar el-Assad, etc. Mais enfin, n'empêche que à chaque fois qu'on a essayé de faire des choses très concrètes avec la Russie en Syrie, ça a été très limité très vite, que ce soit sur le plan humanitaire ou sur le plan des discussions politiques, où d'ailleurs la France n'a pas le même poids, forcément, puisque Moscou, en raison de sa trace militaire, et économique et politique en Syrie, a bien sûr un poids que la France n'a pas dans les discussions. Et puis, le troisième sujet, vous avez évoqué la Centrafrique. Alors là, je suis pas sûr qu'il soit vraiment question de d'intérêt commun ou de stratégie commune de stabilisation, puisque là, on a un vrai sujet franco-russe militaire, puisque la France n'est pas tout à fait heureuse de voir la manière dont le gouvernement russe et ses alliés essaient de prendre une place dans le dispositif politico-militaire centrafricain. Et là, je crois que c'est plus un sujet de friction qu'un sujet de convergence. Donc, dans les trois sujets que vous avez mentionnés, on a quand même trois paramétrages très différents dans la relation franco-russe.
Oui, sujet de friction, bien évidemment, et le dossier centrafricain, probablement le dossier le moins visible, il n'est pas le moins ardu. Tatiana Kassouvajan, vous souhaitez faire un commentaire?
Oui, juste pour compléter ce que disait Bruno Tertrais, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, est allé quand même jusqu'à qualifier d'anti-française cette politique russe qui menait au Centrafrique. Et il faut dire qu'en fait que ça s'inscrit dans un débat plus large sur le retour, entre guillemets, de la Russie en Afrique, sur continent qui a été déserté en quelque sorte par la Russie. Il y a des Africains qui disent qu'ils ont assisté à une fermeture très rapide de plusieurs centres culturel, des ambassades, etc. Donc ce repli était vraiment très très rapide et très brutal. Et voilà que la Russie revient aujourd'hui quelque peu, remanifeste de l'intérêt pour cette région, pour plusieurs raisons, pour les matières naturelles, évidemment, première, pour les coopérations énergétiques, les coopérations en matière de vente d'armes, c'est extrêmement important. Et les modes opératoires de la Russie aujourd'hui dans cette région sont assez curieuse, hein, c'est le recours à des compagnies militaires privées qui ne disent pas souvent leur nom. Et il faut dire qu'en Russie, il n'y a pas de législation qui régit ces compagnies militaires privées. Il en était question à plusieurs reprises, mais cette loi n'est toujours pas passée. On ne sait pas trop quel est le statut. On les attribue à la direction d'un certain Prigogine, Yevgeny Prigogine, qui serait le cuisinier de Vladimir Poutine et aussi son homme de main.
Le cuisinier au sens figuré ou au sens propre?
Non, au sens propre, c'est traiteur qui organise les banquets, les dîners, etc., qui fournit aussi des repas, autant pour l'armée que pour quelques cantines scolaires à Moscou, voilà, donc il a de gros marchés, et c'est assez surprenant, parce qu'en effet, on l'a vu présent aux côtés des personnalités les plus haut placées sur certaines photos des rendez-vous officiels entre les Russes et représentants des pays africains. Et au mois d'octobre, il y aura un grand sommet Russie-Afrique à Sochi. C'est un moment important qu'on va observer pour voir où la Russie est l'année dans cette stratégie de retour en Afrique. Il y a plusieurs délégations qui sont annoncées, quasiment tout le continent africain sera présent.
Un sommet Russie-Afrique donc à Sochi à venir. Il nous reste une minute pour terminer cette première partie d'émission. Arnaud Dubien, je voulais peut-être en quelques secondes, si vous le voulez bien, et on y reviendra dans la deuxième partie, que vous nous disiez la façon dont est perçue en Russie, à Moscou particulièrement, cette reprise de dialogue, ce rapprochement, cette ouverture en tout cas de la France vis-à-vis de la Russie. Arnaud Dubien.
Au plus haut niveau, elle est perçue positivement. Je crois que la France est perçue comme un partenaire crédible, et surtout en l'absence de l'Allemagne qui est passive sur beaucoup de dossiers internationaux, et en particulier l'Ukraine depuis quelques mois. Donc c'est un signal perçu favorablement.
Alors je vous arrête là, positivement, c'est ce que je retiens pour terminer cette première partie d'émission. On vous retrouve, Arnaud Dubien, dans la deuxième partie avec Tatiana Kassouvajan et Bruno Tertrais après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur le dialogue franco-russe, nous retrouvons nos invités par téléphone. Arnaud Dubien, politologue, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou et chercheur associé à l'IRIS. En studio, Tatiana Kastueva-Jean, directrice du Centre Russie de l'IFRI, et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Arnaud Dubien, je vous ai coupé la parole à la fin de la première émission. Je vous posais la question de savoir comment, en Russie et plus particulièrement à Moscou, le rapprochement, en tout cas la reprise, l'ouverture faite par la France vis-à-vis de Moscou était perçue. Vous me disiez positivement.
Oui, c'est un signal qui est perçu positivement, même s'il y a beaucoup de scepticisme, au moins autant qu'à Paris. Positivement, parce que les gens voient qu'un grand pays européen, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'engage dans une démarche d'ouverture, essaie de remettre les choses à plat. Scepticisme, parce que on s'interroge à Moscou sur les marges de manœuvre de la France, sur sa capacité à entraîner d'autres pays occidentaux. Et puis, en fin de compte, ce qui compte de Moscou, ce sont les États-Unis, y compris pour les sanctions. Supposer que l'essentiel des sanctions européennes liées au Donbass soit levé, il restera toujours les sanctions américaines. Mmh. Or, on sait que les acteurs économiques européens sont en réalité soumis à diktat américain. Et puis, il ne faut pas sous-estimer non plus l'état d'esprit d'une partie des élites russes qui a changé. Puis,
c'est-à-dire
5 ans, 10 ans, qui ne voit plus l'Europe et l'Occident comme le centre du monde, qui s'estime à tort ou à raison trahi, qui ne fait pas plus confiance à l'Occident que l'Occident fait confiance à lui. Donc rien ne sera simple côté russe non plus.
L'élite russe se sent trahie, alors peut-être un décryptage, Bruno Tertrais.
Mon point de vue là-dessus, c'est qu'il y a à la fois un vrai sentiment d'isolement. La bouderie russe n'est pas feinte, mais là où je m'inscris en faux, c'est sur ce récit qu'on entend beaucoup à la fois en Europe et aux États-Unis et en Russie, bien sûr, selon lesquels il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, que l'OTAN s'est élargie alors qu'on avait promis de pas le faire, et que par ailleurs, il y aurait une, entre guillemets, sphère d'influence naturelle, fermez les guillemets, de la Russie à ses frontières, et qu'après tout, il serait anormal, selon ce récit, que ces pays deviennent membres de l'OTAN ou de l'Union européenne.
Ça, ça fait 30 ans qu'on tourne en boucle sur cette question,
d'une
certaine manière.
Alors, je crois qu'il y a à la fois un vrai malentendu, c'est-à-dire que certains soviétiques puis russes ont cru entendre des choses, entendre ce qu'ils voulaient entendre, et il y a aussi une instrumentalisation de ce sujet, et c'est vrai que finalement, certains dirigeants occidentaux sont parfois sensibles à l'argumentation russe. On voit d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a repris une partie de cette thématique, même publiquement, notamment à Brégançon quand il a reçu Vladimir Poutine. En gros, il disait, c'est vrai qu'on n'a pas tenu compte des sensibilités russes et qu'on est allé un petit peu trop vite. Alors, tout ça se discute. Il y a un aspect historique, il y a un aspect politique. Moi, je crois que fondamentalement, la question, c'est voulons-nous vivre dans un monde où, comme au 19e siècle, on divisait les espaces en sphères d'influence et on considérait qu'il était naturel, voire souhaitable, qu'un pays domine ses voisins s'il est plus fort que les autres. Ça, c'est une vision des choses. Et il y a une autre vision des choses qui, tout simplement, consiste à dire qu'au 21e siècle, c'est quand même d'abord les États concernés qui doivent choisir librement s'ils souhaitent être plus proches ou moins proches de tel ou tel voisin ou de telle ou telle institution internationale. Mais en tout cas, ces sujets me paraissent fondamentalement au cœur de la relation et des problèmes de la relation entre la Russie, l'Europe et derrière avec les États-Unis, bien sûr.
Tatiana Kastueva-Jean.
Il y a un discours qui est très construit depuis 5 ans et qui consiste à dire que toute la faute est entièrement à l'Occident, notamment à l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN, aussi les systèmes antimissiles en Roumanie, et qui font que la Russie se sent menacée. Et en même temps, il y a un discours parallèle qui est lié à cela qui se développe, c'est qu'aujourd'hui, le centre du monde, ce n'est plus l'Occident qui est décadent, en difficulté, avec les flux migratoires, économiques, etc. Mais c'est plutôt l'Asie. D'ailleurs, j'ai regardé hier le programme du prochain Club Valdai, où depuis 2004, Vladimir Poutine, tous les ans, est là et discute avec les experts étrangers et russes. Et le programme est très centré Asie. Donc tout est fait pour mettre en valeur la montée en puissance de ce pôle-là. Et par son partenariat avec la Chine, la Russie essaie de montrer qu'elle, elle appartient justement à ce pôle des puissances émergentes. En pratique, quand on creuse un petit peu, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Les Russes ont quand même, même s'ils le nient aujourd'hui publiquement, des craintes par rapport à la Chine, des déceptions qui commencent à s'accumuler avec les investissements qu'ils trouvent insuffisants, en fait, par rapport aux besoins, notamment de l'Extrême-Orient. Il y a aussi les tentatives de diversifier même la politique asiatique à l'égard du Japon, à l'égard de l'Inde, et aussi, on sait bien que les élites russes, en réalité, ont leurs actifs immobiliers, les enfants dans les universités occidentales savent très bien qu'il y a besoin de coopération technologique avec l'Occident. Donc tout ça, c'est assez complexe en réalité. Et s'il y a une semblant d'unité de façade de ces élites derrière Vladimir Poutine sur un certain nombre de sujets. Sur d'autres, il y a quand même débat et de temps en temps, ça transperce aussi dans l'espace public. Et ce débat concerne peut-être moins la politique étrangère que la politique intérieure. C'est là-dessus qu'il y a vraiment beaucoup d'interrogations.
Peut-être un tout petit mot là-dessus avant qu'on passe à autre chose. Juste en contrepoint de ce que vient de dire Tatiana, il y a aussi dans le raisonnement de la France un autre récit qui consiste à dire la Russie est en train de larguer les amarres et de se rapprocher de la Chine. C'est notre faute. Or, la Russie est naturellement européenne, donc nous allons la ramener. Et là, je crois qu'il faudra vraiment déconstruire un peu ce récit qui, moi, me semble douteux, y compris pour les raisons que vient mentionner Tatiana. Mais je crois que c'est quand même assez central dans le raisonnement français.
Ce que vous voulez dire, c'est que la Russie ne s'est pas tournée vers la Chine par dépit par rapport à l'Occident. C'était dans la stratégie russe. On peut rappeler que les Russes sont entrés dans l'organisation de Shanghai en 2001.
Mais vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a même le traité d'amitié et de coopération entre la Russie et la Chine. Il a été signé justement la même année. Tatiana sait mieux que moi que la Russie ne s'est pas construite, ne se voit pas, ne se vit pas comme exclusivement européenne, mais a toujours souhaité mentionner et intégrer le fait, même culturellement, qu'elle a aussi un pied en Asie, etc.
Donc, l'image de l'aigle bicéphale.
L'image de l'aigle bicéphale. Moi, je crois que ce récit porté, en tout cas publiquement, par Emmanuel Macron, est un récit extraordinairement simplificateur et, à mon avis, qui donne trop de place à ce que peut faire la France, est-ce que peut faire l'Europe, est-ce que peut faire l'Occident via la Russie. C'est un récit finalement très égocentrique pour les Européens.
Alors, je me retourne vers vous, Arnaud Dubien. On parlait des élites russes. Je voudrais qu'on parle des classes moyennes et l'actualité en Russie nous a montré cet été que voilà, beaucoup de manifestations s'étaient produites dans les grandes villes de Russie. Est-ce qu'on peut voir, puisque vous nous parlez de la façon dont Moscou avait accueilli cette ouverture française de façon positive et favorable, est-ce qu'on peut voir là une façon pour Vladimir Poutine de résoudre des questions intérieures?
Non, je ne pense pas que les grands dossiers internationaux et les questions de politique intérieure soient liés. En réalité, on peut toujours les relier. Effectivement, il y a l'ambiance politique générale, la fermeture, le serrage de vis à l'œuvre depuis 2012, aggravé par la crise ukrainienne, évidemment. Mais il faut se défaire de l'idée selon laquelle un rapprochement avec l'Occident, avec la France, faciliterait la situation de Vladimir Poutine sur l'intérieur, qui n'est pas critique au demeurant. Vous avez parlé de manifestations dans les grandes villes. Non, en réalité, ça concerne essentiellement Moscou. Avec des mobilisations d'ampleur, il y a des phénomènes nouveaux qui se produisent. Il y a aussi des voix discordantes dans le premier cercle de Vladimir Poutine qui montrent que le débat qui avait lieu essentiellement en coulisses ces dernières années commence à percer sur des questions essentielles, alors même que se rapproche l'échéance fatidique, peut-être 2024, qui est celle de la fin du quatrième mandat de Vladimir Poutine et donc de la succession. Mais il n'y a pas de lien direct entre la popularité, par exemple, de Vladimir Poutine ou son impopularité et la politique étrangère.
Tatiana Kassouavajan ?
Moi, je pense qu'il y a un lien entre la politique intérieure et la politique étrangère. Quand vous regardez les sondages, vous voyez bien que le premier acquis des présidences de Vladimir Poutine, qui est cité par la population, c'est de lui redonner le rang, le prestige international qu'elle mérite. Si vous vous souvenez de la séquence 2011-2012, il y avait un début d'érosion de la popularité de Vladimir Poutine, des manifestations dans la rue, etc. Tout ça, ça a été complètement mis de côté. Cette tendance a été inversée avec l'annexion de la Crimée, qui a provoqué vraiment un élan de patriotisme, voire de nationalisme, etc. Et ce consensus criméen, entre guillemets, s'érode à nouveau. On revient sur les problèmes intérieurs, les problèmes économiques, etc. Donc moi, je vois ce lien. Et ce lien, en fait, il est inverse. C'est pas parce qu'on va se réconcilier avec l'Occident et l'Europe que la popularité de Vladimir Poutine va augmenter, mais c'est si on continue à défendre les intérêts. Il y a des sujets sur lesquels les Russes ne souhaitent absolument pas revenir, comme l'annexion de la Crimée. C'est une question qui est classée pour l'opinion publique russe. Et je pense que même un autre leader, en arrivant au pouvoir, aura beaucoup de mal à renégocier ce sujet-là.
Bruno Tertrais, vous souhaitez rajouter quelque chose ? On aborde la question américaine et la question du contrôle des armements en Europe. C'est ce qu'on va faire. Alors, première question, est-ce que le départ de Bolton, conseiller américain à la sécurité, peut changer quelque chose et faire baisser la tension ?
Pas vraiment, parce que... Alors, c'est vrai que le départ de John Bolton, c'est le départ d'un homme dont la mission, la mission qu'il se donnait, c'était effectivement le détricotage d'un certain nombre de traités, d'accords, d'institutions vues comme des carcans pour les États-Unis. Et c'est vrai que là, il y avait vraiment une idéologie boltonienne à l'œuvre. Il poussait beaucoup l'administration dans ce sens. Cela dit, en ce qui concerne le contrôle des armements, la maîtrise des armements, puisque c'est ça dont on voulait parler, il ne faudrait pas du tout penser que son départ ou sa présence, même d'ailleurs, changeait énormément les choses et que son départ changera les choses. Il y a cette tendance très forte dans l'establishment républicain américain, une partie en tout cas de l'establishment républicain, l'administration Trump, qui consiste à dire que ces traités sont effectivement pas forcément à l'avantage des États-Unis, et en tout cas, si on ne cherche pas à les démanteler, on ne cherchera pas forcément à les réparer ou à en signer de nouveaux. En gros, il y a trois types d'accords. Il y a ceux qui concernent le conventionnel, le classique, et on a un vrai sujet, en tout cas, entre les Européens, les Américains et les Russes en Europe, parce que là, ce sont des traités qui aujourd'hui, des traités et des accords qui ne sont plus respectés. On a un deuxième sujet qui concerne les forces nucléaires intermédiaires, le fameux traité dont les États-Unis se sont retirés parce que les Russes le violaient, et là, les Français, d'ailleurs, sont tout à fait sur la ligne américaine, parce qu'ils ont, par leur propre service de renseignement, aussi fait le constat que la Russie violait ce traité par les nouveaux déploiements de missiles depuis déjà quelques années. Puis un troisième sujet, qui est l'avenir de la maîtrise des armements stratégiques, hein, ceux qui peuvent atteindre le territoire russe et américain de chaque côté. Et là, il y a un accord qui arrive à échéance en 2021. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'à partir de 2021, on n'aura finalement plus aucun accord ou traité de maîtrise d'armement qui régisse la sécurité en Europe. Ce qui est préoccupant, peut-être pas aussi inquiétant que le disent certains, mais en tout cas préoccupant.
Alors, préoccupant parce que le contrôle des armements est enterré et que ce qu'on risque, c'est une reprise finalement de tout cela, d'où les inquiétudes européennes, françaises surtout. Ça, c'est la préoccupation majeure de Paris.
C'est une préoccupation majeure, pas seulement de Paris. Ça ne veut pas dire que c'est la reprise de la course aux armements, comme je l'entends souvent dire. Je ne crois pas du tout. C'est pas du tout le retour à la guerre froide. Le problème, c'est qu'un certain nombre de règles sur la sécurité dans l'espace qu'on appelle euro-atlantique, notamment sur le continent européen, toutes les règles finalement qu'on a essayé de monter en commun avec Moscou, je le rappelle quand même, depuis le début des années 70, pas seulement depuis la fin de la guerre froide, tout ça est en train de s'effondrer. C'est très préoccupant en termes de capacité collective à essayer de prévoir et de modérer les comportements des uns des autres, de prévoir la manière dont les arsenaux évoluent, classiques et nucléaires, et la manière dont les uns et les autres se comportent. Je pense notamment à toutes ces mesures de confiance et de sécurité de comportement militaire sur le continent européen. Et là, j'avoue que pour moi, c'est assez clair, la faute en incombe à Moscou. Donc, il y a des responsabilités partout. Je crois qu'elles sont principalement russes sur l'aspect mesures de confiance, de sécurité et normes de comportement en Europe. Mais sur la maîtrise des armements proprement dite, les responsabilités sont très clairement partagées. Paris ne peut pas s'en féliciter. Est-ce qu'on peut retrouver sur le plan au moins bilatéral des espaces de discussion ? C'est possible, mais je suis assez pessimiste.
Tatiana, qu'est-ce que vous
pour ajouter un point, bon évidemment, Moscou ne serait jamais d'accord que les fautes sont partagées. Pour elle, c'est entièrement la faute américaine et je pense qu'ils ont leur part de responsabilité. Dans tout cela, il y a aussi la situation qui a énormément changé. On a aujourd'hui d'autres puissances nucléaires, même si on dit que plus de 90% des arsenaux nucléaires, c'est les arsenaux américains et russes, mais il y a quand même aussi la question chinoise et la Chine ne souhaite absolument pas avoir sa marge de manœuvre restreinte d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi d'autres puissances dont on pourrait discuter. Les Russes gardent aussi une grande rancune parce que leur proposition de construction de maisons communes européennes ou la sécurité, l'architecture de sécurité commune, c'était la proposition de Medvedev en 2008, etc. Pour le Kremlin, Moscou n'a jamais été écouté en la matière. Mmh. Les Occidentaux n'ont pas prêté l'oreille à ses préoccupations sécuritaires, etc. C'est ce qu'ils souhaiteraient faire, c'est de réengager les discussions, mais le sujet est extrêmement complexe. En fait, il faut être assez clair, Moscou cherche un droit de regard sur les questions de sécurité européenne, etc. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là de l'OTAN, de sa présence en Europe, etc., des engagements transatlantiques, de l'article numéro 5, comment on combine tout ça avec les discussions sur l'architecture de sécurité commune. Donc pour l'instant, le concept reste quand même assez flou.
Assez flou pour ne pas dire que la confiance, d'une certaine manière, est peut-être un élément qui manque dans ces relations à la fois entre Moscou et Washington et Moscou et l'Union européenne, Arnaud Dubien.
Oui, la confiance, c'est ce qui fait le plus défaut. C'est ce qu'il faut commencer à rebâtir. C'est ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron dans un contexte très dégradé. Tout ça vient de loin. Côté russe, les perceptions remontent aux années 90, l'élargissement de l'OTAN, la guerre en Irak. Il y a beaucoup, évidemment, la dénonciation par l'administration américaine Bush en 2001 du traité ABM de 72. Alors tout ça, évidemment, matiné d'une bonne dose de mauvaise foi par ailleurs, mais il y a cette perception très ancrée que l'Occident, finalement, a cherché à profiter de sa situation dominante dans les années 90 pour avancer ses pions, et que aujourd'hui, la Russie n'a plus l'intention de se laisser faire. Alors, dans ce contexte-là, avec ce passif, avec ces perceptions très dégradées de part et d'autre, construire de la confiance n'est évidemment pas une tâche aisée.
Alors, la confiance est une chose, l'autre chose c'est la volonté. Qu'est-ce qu'on peut dire, Bruno Tertrais, peut-être du degré de volonté de la Russie de parvenir à restaurer une confiance
Mais finalement, ce qui me frappe en ce moment, c'est que j'ai l'impression que la France est davantage demandeuse que la Russie. Mmh. Ça se voit presque dans la manière dont Vladimir Poutine s'exprime et se positionne sur ces sujets. On a le sentiment que la Russie dit « Bon, si vous voulez essayer de travailler, oui, essayons de travailler ensemble, mais nous avons d'autres options, vous êtes moins important que vous l'étiez. » Alors, le volontarisme politique d'Emmanuel Macron dans ce domaine-là, comme dans d'autres, est assez frappant, et je crois qu'il faut le saluer, mais je crois que là, il y a une croyance dans ce que peut faire la France et dans ce qu'il peut faire lui, notamment. Vous savez, Emmanuel Macron, il ne faut jamais oublier que c'est quelqu'un à qui on a toujours dit « c'est impossible, ça ne marchera pas » et lui, il répond « je vais le faire ». Vous m'avez tous dit que je ne pouvais pas être élu président de la République à 39 ans, je l'ai fait. Vous me dites tous qu'on ne peut pas aller très loin avec la Russie pour rétablir une raison, eh bien je vais le faire. C'est très macronien. Donc je crois que moi, ce qui me frappe, c'est que cette volonté française, elle semble supérieure à la volonté russe, et en tout cas la Russie fait un petit peu sa cocotte, comme on dit, et voudra venir se laisser séduire. Bon, Emmanuel Macron n'est pas naïf. Il le rappelle parfois. Il dit, avec la Russie, c'est le rapport de force qui marche. On se souvient de ses déclarations face à Vladimir Poutine sur le rôle trouble joué par RT et surtout Spoutnik en France. Donc, il a bien tout ça en tête. Mais je crois qu'il caresse quand même fondamentalement cet espoir d'être un nouveau grand dirigeant européen, lui ayant une marge de manœuvre que d'autres n'ont pas. Angela Merkel ne l'a pas. Boris Johnson est occupé autrement. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de volontarisme politique. Je crains que ces espoirs soient assez rapidement douchés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à avoir un dialogue approfondi avec la Russie sur tous les sujets.
Tatiana Kassouavagent, très rapidement, sur la volonté russe, alors ?
Je pense que Emmanuel Macron, au fond de lui, souhaite parler non seulement à la Russie de Poutine, mais aussi à la Russie au-delà de Poutine. D'où le lancement, par exemple, du dialogue de Trianon, qui cherche à engager les sociétés civiles, etc. Et peut-être le discours sur ne pas laisser filer la Russie dans les bras de la Chine est aussi guidé par cette volonté d'avoir une vision stratégique, d'aller un peu au-delà, d'aller à long terme. On verra très rapidement le résultat, en fait. Le prochain format de Normandie, ce sera Paris, et normalement, avant le mois d'octobre. Au mois de novembre, Vladimir Poutine viendra à Paris pour le forum de paix de Paris en tant qu'invité d'honneur. Et surtout, Emmanuel Macron s'est engagé à aller l'année prochaine pour fêter le 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, ce qui peut être un peu l'heure du retour de la Russie et la victoire symbolique sur cet Occident décadent, comme il ne cesse de dire depuis 2014.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Tatiana Kastoueva-Jean, je rappelle que vous êtes directrice du Centre Russie de l'IFRI. Merci Arnaud Dubien, politologue, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou et chercheur associé à l'IRIS, et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Laurie Plisson et Véronique Durand. Demain, nous parlerons des organisations sportives internationales et de leur nécessaire évolution. À demain.